Le journal Loïc Barrière. En Iran, un syndicat appelle à 2 jours de grève pour protester contre la répression des manifestations. 51 nouveaux cas de choléra déclarés au Liban, 5 personnes sont décédées. Le festival Beyrouth Livre se tient dans plusieurs villes du Liban. Parmi les auteurs invités, Sabil Roussoub. Pour lui, l'existence de ce festival dans un pays en crise tient du miracle. La crise énergétique, l'exemple de Villetaneuse. Dans cette ville, les factures d'électricité ont été multipliées par 2, les factures de gaz par 5. Nous écouterons le maire Dieunor Excellent, invité ce soir de Pluriel. Enfin, la 15e édition du Festival de Fès de la culture soufie se tient à partir de demain en partenariat avec Radio Orient. Entretien avec son fondateur, Faouzi Skali. En Iran, un syndicat d'enseignants appelle à une grève de 2 jours à partir de dimanche. Objectif, dénoncer la violente répression dans les écoles et la mort de plus de 23 enfants lors des manifestations. Le syndicat affirme également qu'un grand nombre d'enseignants ont été arrêtés sans être inculpés. Aujourd'hui, des centaines de personnes ont manifesté à Zaïdan, dans le sud-est de l'Iran. Les manifestations ont été déclenchées par la mort de Mahsa Amini après son arrestation par la police des mœurs. L'UNRWA appelle à une aide d'urgence de 13 millions de dollars pour les réfugiés palestiniens du Liban. Selon cette agence de l'ONU, les réfugiés palestiniens vivent dans une pauvreté sans précédent, notamment en raison de l'inflation des prix au Liban. Le Liban, qui a enregistré 51 nouveaux cas de choléra au cours des 2 derniers jours, ce qui porte le total à 220 cas confirmés depuis le début de l'épidémie. Ces dernières 48 heures, 5 personnes sont décédées de cette maladie. L'OMS alerte sur une hausse sans précédent du nombre de foyers de choléra à travers le monde. Le festival littéraire Beyrouth Livre a commencé cette semaine dans la capitale libanaise, mais aussi dans d'autres villes du pays. Une rencontre est ainsi prévue lundi à Tripoli avec l'écrivaine Georgia Mahlouf. Autre écrivain invité, Sabil Roussoub. Il vient présenter au public libanais son roman intitulé Beyrouth sur scène aux éditions Stock. Un roman sélectionné pour le prix Goncourt. On écoute Sabil Roussoub.
Ça tient du miracle et d'ailleurs je vais remercier Mathieu Diaz, le responsable du salon, et toute son équipe qui a travaillé vraiment d'arrache-pied. On les a vus et c'est vraiment très impressionnant ce qu'ils ont fait. D'ailleurs le salon est devenu un festival, maintenant ça s'appelle le Festival Beyrouth Livre, et je trouve que cette idée est assez géniale parce qu'il ne va plus se passer que à Beyrouth mais dans plusieurs villes au Liban. C'est une sorte de festival itinérant qui me semble être le plus adapté d'ailleurs à la situation au Liban, dans le sens où je pense que beaucoup de Libanais n'ont plus les moyens d'acheter des livres comme dans un salon normal. Et voilà, donc ça va être un salon très vivant avec différentes générations qui vont venir. Il y aura évidemment pas que des Libanais, il y aura aussi des auteurs français internationaux. Et c'est vrai que j'ai assez hâte d'y aller. En tout cas, c'est une très belle raison pour un jeune auteur comme moi de retourner au Liban quand on a un peu du mal à y retourner.
Et c'est une bouffée d'air frais, la littérature, dans un pays qui subit de multiples crises.
Ça, je saurais pas le dire. Il faudra demander aux Libanais qui sont là-bas. Je sais pas à quel point les livres dans ce genre de situation peuvent aider, mais sûrement parfois les mots de certains auteurs peuvent peut-être un peu soulager. Je crois que dans une situation de crise, il faut surtout pouvoir avoir le temps de lire, en fait. Prendre le temps, et c'est souvent ce qui manque. Mais j'imagine que quand ils arrivent à le prendre, oui, certains écrits doivent faire du bien.
Et ce festival, c'est aussi l'occasion d'échanger avec des gens qui viennent d'ailleurs.
Qui viennent d'ailleurs, d'échanger aussi avec les gens, avec les Libanais. C'est vrai que quand on est Libanais et qu'on écrit ailleurs, on rencontre très peu le public libanais, même si bon, il y a beaucoup de Libanais maintenant à Paris et en France. Mais c'est vrai que c'est aussi un moyen d'échanger avec les plus jeunes, les lycéens, les collégiens. Non, c'est vraiment, c'est une chance.
Sabil Roussoub, il vient présenter au festival Beyrouth Livre son roman intitulé Beyrouth sur scène aux éditions Stock. Au Pakistan, l'ex-premier ministre Imran Khan se voit interdire de candidature électorale pendant 5 ans. La décision a été prise par la commission électorale parce que l'ancien premier ministre aurait reçu des cadeaux diplomatiques non déclarés alors qu'il était au pouvoir. Les dirigeants de l'Union européenne ont trouvé un accord sur une feuille de route pour lutter contre la flambée des prix de l'énergie. Emmanuel Macron annonce pour sa part que la France se retire du traité sur la charte de l'énergie, un traité qui permet aux géants de l'énergie de se retourner contre les États qui mèneraient des politiques défavorables à leurs investissements. Une décision annoncée par le président français au terme du sommet européen de Bruxelles. La hausse des prix de l'énergie se fait durement ressentir dans les collectivités locales. L'exemple de Villetaneuse, une ville de Seine-Saint-Denis. Je vous propose d'écouter le maire Dieunort Excellent. Il sera l'invité de Pluriel ce soir à 19h et 23h.
Et déjà pour la collectivité, c'est les factures d'électricité qui sont multipliées par deux. Le budget de gaz, c'est x5. On est sur une augmentation à peu près de 20% sur le budget du papier. Après, j'ai dû mettre en place aussi des mesures de sobriété énergétique. Bon, bien sûr, j'ai rédigé une lettre aux agents pour expliquer, parce que tout le monde ne comprend pas, même si les gens, aujourd'hui, commencent à voir la réalité, parce qu'ils reçoivent aussi des factures. Ils voient les provisions de charges pour celles et ceux qui sont même locataires de logements sociaux, parce que c'est du chauffage collectif pour certains bailleurs. Et donc, oui, il faut mettre en place ce seuil de chauffage aussi. On a fait ce qu'on peut faire et on fera mieux encore. On interdit même le chauffage à certaines températures. Maintenant, ce qui est dommage, c'est qu'il a fallu qu'on se retrouve dans une situation de crise énergétique pour avoir une démarche d'éco-responsabilité. C'est dommage, mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. En effet, pour la population, on le constate à travers nos comités de quartier, les gens, oui, ils commencent à se dire « qu'est-ce que je fais ? Je paye ma facture d'électricité, ma facture de gaz ?» ou « je ne mange pas ». Voilà, ils sont en train de choisir entre payer leur facture ou manger. Donc par rapport à ça, oui, la collectivité, on essaie de se mobiliser avec le peu de moyens qu'on a, parce qu'il faut aider aussi les personnes qui ont le plus besoin. Donc j'ai prévu d'augmenter le budget de ma caisse communale d'action sociale, alors que la collectivité subit aussi de plein fouet ces augmentations de charges. Et puis on travaille avec les bailleurs pour qu'ils puissent ne pas entamer des procédures de contre les locataires qui auront des difficultés à payer les surplus. Donc voilà, on agit avec nos moyens, mais oui, on le sent, les personnes commencent à souffrir déjà sur cette difficulté liée. Et c'est des personnes qui étaient déjà en difficulté économique, on le sait. C'est des personnes qui avaient déjà du mal à payer leur loyer, qui avaient du mal à manger correctement tous les jours. Donc oui, on le sent, on l'entend, et il faut que tout le monde puisse agir à son niveau pour aider ceux qui en auront le plus besoin.
Quelle est la marge de manœuvre d'une ville comme Villetaneuse face aux fournisseurs d'énergie ?
Oui, la marge, c'est quoi ? On avait des contrats qui étaient bien négociés parce qu'on est affilié aussi à certains syndicats mixtes d'énergie, heureusement. Donc ça nous protège un petit peu, mais très vite, la réalité va s'imposer à tout le monde. Et la marge de manœuvre pour nous, c'est d'aller négocier, c'est d'aller essayer de dire à un moment donné, on ne pourra plus. Et puis, moi, j'en appelle à l'État. Donc, j'ai écrit au préfet, justement, pour solliciter les services de l'État pour nous accompagner dans la gestion de cette crise. Mais nos marges de manœuvre sont simples. Même si nous, à Villetaneuse, au-delà de Villetaneuse, sur le territoire de pleine commune, on investit dans la géothermie. Voilà, à Villetaneuse, il y aura une centrale géothermique d'ici 2025. Donc, ça sera une possibilité aussi de réduire le coût d'énergie, notamment sur nos nouveaux équipements, la piscine, la nouvelle école qu'on est en train de rénover, de réhabiliter, d'autres équipements aussi. Villetaneuse, c'est aussi l'université Sorbonne Paris Nord, 13 000 étudiants. J'ai discuté avec le président de l'université pas plus tard qu'hier. Pour eux, c'est énorme. Ils ont des coûts de fonctionnement en énergie, en charge réelle, qui sont insupportables. Donc là-dessus, voilà. Aujourd'hui, c'est difficile, donc on va essayer de trouver des solutions. Et puis, il faut prévoir aussi, donc aller vers moins d'énergie fossile et aller sur des énergies renouvelables qui nous permettent vraiment de baisser ces coûts, notamment via la géothermie. Mais là, pour l'instant, oui, c'est compliqué. Donc, on aura vraiment besoin de services de l'État pour nous accompagner aussi là-dessus.
Dieunort Excellent, maire de Villetaneuse, il est l'invité de Pluriel à 19h et 23h. La CGT appelle à deux journées de grève et de manifestations nationales et interprofessionnelles les 27 octobre et 10 novembre. Comme mardi dernier, le syndicat réclame une augmentation des salaires. Enfin, la 15e édition du Festival de Fès de la culture soufie se tiendra à partir de demain sous le thème « Science et conscience ». événement organisé en partenariat avec Radio Orient. Le fondateur et président de ce festival, Fawzi Skali, sera l'invité de rencontre demain samedi à 9h, extrait de cette émission.
C'est un festival qui va connaître bientôt sa 15e édition. Donc il a déjà une certaine histoire derrière lui, mais en vérité, il a aussi une préhistoire, si je puis dire, qui est celle d'être issu d'un autre festival que j'avais créé en 94, donc ça remonte à un certain temps, et qui est le Festival de Fès des musiques sacrées du monde. Voilà, et que donc à partir de cela, il y a ce processus qui s'est entamé, d'abord pour reconcilier Fès avec, si je peux dire, l'esprit de son héritage andalou, puisque ce Fès est profondément marqué par cet héritage, à la fois sur le plan, évidemment, des édifices, des monuments, des arts vivants aussi, les musicaux, culinaires, l'art de vivre, mais aussi de cette tradition de la conviviencia, de faire coexister ensemble un certain nombre de traditions spirituelles diverses, abrahamiques, notamment juives, chrétiennes et musulmanes. Or, tout ça, c'était un peu perdu dans l'histoire. C'était resté quelque chose de bien plus nostalgique que dans la réalité, sauf que bien sûr il y a eu quand même une convivialité qui a perduré jusqu'à aujourd'hui avec la tradition juive à Fès en particulier. Mais pour faire revivre tout cela à une échelle beaucoup plus grande, il y a eu cette idée de créer le Festival de Fès des musiques sacrées du monde et son colloque Une âme pour la mondialisation. Et puis au fur et à mesure que se réalisait ce travail et ce parcours, je me rendais compte que ce qui était la matrice de tout cela, ce qui rendait possible cela, c'était cet héritage culturel du soufisme, qui est cette voie mystique de l'islam, mais qui est une voie qui ouvre à cette quête de l'universel et aussi à cette attitude d'accueil des différentes traditions, des différents cultes, des différentes spiritualités. Et ça, depuis toujours, on peut observer cet état de fait, par exemple, dans des villes comme Konya, là où était le fief et où se trouve actuellement le mausolée du grand Rumi. On peut trouver ça, évidemment, en Andalousie, à Cordoue, en Murcia, le berceau du Ben Arabi. Et puis, il m'a semblé important et intéressant de faire vivre cette culture, non pas simplement là aussi comme une sorte d'héritage historique, mais de lui donner un aspect vivant, et en l'occurrence à travers les arts spirituels, le Sama par exemple, mais aussi les tables rondes, la pensée, la transmission des grandes œuvres, et ainsi de suite.
Fawzi Skali, comment pourriez-vous définir le soufisme dont on dit souvent qu'il est le cœur de l'islam ?
Eh bien, c'est une voie d'intériorisation spirituelle, c'est-à-dire de connaissance de soi, et de transformation de soi par cette connaissance. C'est un itinéraire intérieur, ce qui est d'ailleurs le propre en réalité de toute religion. Toute religion doit permettre de se relier à travers cette dimension du vécu, de l'élévation, si je peux dire, de notre conscience intérieure, d'une plus grande proximité à notre source d'être qui est une source divine du point de vue de la mystique soufie. Et donc, comment est-ce que spirituellement, eh bien, on traverse les différentes étapes de cette voie ? N'est-ce pas, Sainte Thérèse d'Avila, dans Palacios, disait d'ailleurs qu'il y avait en elle une certaine influence, une présence aussi de cette voie soufie andalouse. Elle disait que dans la voie de mon père, il y a plusieurs demeures. Il y a un peu ces demeures, ces étapes de progression intérieure, d'élévation de la conscience, que dans le soufisme on appelle les maqams. Et donc pour cela, il y a une initiation, il y a une transmission, il y a un accompagnement qui se fait, et ça se fait dans le cadre de ces confréries soufis construites autour d'un guide spirituel. Il y en a beaucoup. Le Maroc est en l'occurrence une terre du soufisme depuis plusieurs siècles. mais plus largement, beaucoup d'autres pays, Turquie par exemple, en Asie, l'Indonésie, la Malaisie, il y a eu une influence très très importante de ces voix du soufisme qui ont aussi sécrété, à part d'être des expériences spirituelles vécues et si je puis dire guidées vers une sorte d'apprentissage, de connaissance intérieure, eh bien, il y a aussi une production culturelle, artistique, intellectuelle, qui fait qu'il y a un patrimoine culturel immense qui s'est créé autour de ces voix pendant des siècles. Alors, il y a toute une poésie qui est considérable. On peut penser, par exemple, à Rumi que je citais tout à l'heure, avec son Matsinawi qui... c'est quelque chose comme 25 000 distiques, je crois, 50 000 vers, dédiés uniquement à parler des différents aspects de cette approche mystique et donc de ces différents aspects de découverte de l'amour divin en soi-même, de cette aspiration de l'âme vers sa source éternelle, vers l'aimé, vers la présence de l'aimé.
Fawzi Skali, fondateur et président du Festival de Fès de la culture soufie. Il est l'invité de rencontre demain samedi à 9h et dimanche à 15h et 21h. Cette édition est terminée. Excellent week-end à l'écoute de Radio Orient.